au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie pour ce nouveau Au fil des pages, où je vous invite à partir à la découverte d'une parution extrêmement récente, Gouvernance et communication financière, parue chez Erol, édition d'organisation, en collaboration avec l'Institut français des administrateurs, l'IFA. Cet ouvrage, qui est donc doublement dans l'actualité, celle de la communication qui est de plus en plus placée à l'épreuve de l'opinion, la communication financière bien entendu, et celle de la gouvernance qui elle aussi est au centre des débats sur la crise financière mondiale que nous connaissons. Alors pour partir à cette découverte, j'ai le grand plaisir de recevoir l'un des membres de ce trio d'auteurs, Maître Yves Brissy, qui a donc accompagné dans ce travail messieurs Didier Guigou et Alain Moureau. Maître, bonjour, heureux de vous recevoir sur notre antenne.
Bonjour monsieur Jean-Louis Chambon et merci de m'accueillir sur Canal Académie.
Merci. Alors, je vais, avant qu'on rentre dans le sujet, peut-être vous présenter un peu plus, en commençant par vos co-auteurs. Monsieur Didier Guigou est président et fondateur d'Euroficom. Il a travaillé dans des banques d'affaires américaines et notamment la direction financière de Ron Poulenc. Il a ensuite été directeur de la communication financière à LVMH, et il a créé un cours pour le MBA d'HEC. Il assure des conférences dans différentes organisations. En ce qui concerne Alain Moureau, il est secrétaire général d'AIG Europe, filiale du groupe d'assurance AIG, et il s'occupe du développement de l'assurance et des responsabilités des dirigeants et des administrateurs en France. Il anime régulièrement des formations dans le cadre d'organismes professionnels sur ce sujet. Enfin donc, j'en viens à vous, cher maître. Vous êtes docteur en droit, vous êtes avocat senior au cabinet Auguste et Debouzy.
Et Debouzy, oui.
Debouzy, d'accord. Et précédemment, vous avez occupé pendant 30 ans des fonctions de directeur juridique au sein de groupes multinationaux comme Saint-Gobain, Ron Poulenc, Rodia. Et vous avez été membre de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers.
Tout à fait.
Alors, c'est un ouvrage de praticien, je dirais même d'expert, et vous l'avez écrit quelque temps avant cette crise mondiale, mais il est en plein dans l'actualité, comme je le disais tout à l'heure dans ma présentation. Alors, quel était l'objectif numéro un de votre thèse ? Si j'ai bien compris, c'est de faire un lien qui n'est pas toujours fait entre la gouvernance et la communication financière.
Tout à fait. Je crois qu'effectivement, si vous voulez, dans les 10 ou 15 dernières années, il y a des progrès considérables qui avaient été faits en matière de gouvernance. Bon, la gouvernance, on va la schématiser, c'était le contrôle, si vous voulez, des dirigeants, notamment par les conseils d'administration. Bon, donc là, depuis, si vous voulez, le début de ce nouveau siècle, on peut dire que dans la composition des conseils d'administration, dans la création de comités du conseil, il y a eu des efforts considérables de fait pour mieux contrôler l'activité des dirigeants. Et par ailleurs, suite aux affaires Enron notamment, et suite aux affaires de l'éclatement de la bulle de la nouvelle économie, il y a eu là aussi énormément de demandes pour une meilleure transparence financière qui ont abouti là encore à de nombreux efforts de transparence. Bon, ce qui nous a interrogés, c'est quand même le lien entre ces deux strates, c'est-à-dire la gouvernance, le contrôle et la communication financière. Car on avait une inquiétude de savoir est-ce que la communication financière n'était pas encore restée l'apanage des managers et que le conseil d'administration était peut-être parfois timide pour essayer de s'inférer, essayer de contrôler la communication financière.
Alors vous partez d'un constat beaucoup plus général, je lis à la page 17. On est passé en moins d'une décennie d'un modèle où les entreprises françaises étaient circonspectes pour donner à leurs actionnaires d'autres informations que celles strictement réglementées et comptables, à un modèle de gouvernance de la transparence devenu mondial où les émetteurs communiquent de façon permanente et rapide avec leurs actionnaires et le public. Vous partez par ailleurs d'un diagnostic qui est intervenu à partir de septembre 2007, ou plus exactement qui a été diffusé à partir de septembre 2007. Quelles étaient les grandes lignes de ce diagnostic? Est-ce que vous en avez retenu?
Alors, dans le diagnostic, vous parlez d'une étude que nous avions faite, si vous voulez. Oui. Parce qu'effectivement, le trio d'auteurs, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, d'abord se complète. Il y a Didier Guigou qui est un homme de communication financière. Je suis moi-même un juriste. Et quant à Alain Moureau, lui, il voit ça plus du côté contentieux et des assurances. Bon, donc on se complète. On avait donc une intuition, si vous voulez, qui était effectivement d'une certaine forme de timidité des conseils d'administration pour interférer dans la gestion managériale de la communication financière. Bon, et pour essayer de valider nos intuitions, on a fait, si vous voulez, en 2007, un questionnaire écrit qu'on a envoyé à toutes les sociétés du SBF 120, c'est-à-dire le CAC, enfin, toutes les sociétés, on va dire, cotées un peu importantes, pour essayer de dépouiller ce questionnaire et voir effectivement quel type de contrôle les conseils d'administration s'efforçaient de faire ou de ne pas faire. Et par ailleurs, nous avons été aussi interviewés, si vous voulez, on va dire une trentaine ou une quarantaine de dirigeants qui sont parfois eux-mêmes administrateurs, pour voir comment ils vivaient ce problème. Bon, et c'est à travers ce questionnaire écrit et les réponses orales que nous avons obtenues qu'on a pu, si vous voulez, actualiser notre intuition et le fonder sur un peu plus de factuel.
Et donc vous en avez conclu qu'il y avait un progrès net de la gouvernance et de la communication financière où, comme vous le dites à la page 19, ces progrès de gouvernance et de transparence ne règlent pas tous les problèmes.
Alors effectivement, si vous voulez, très rapidement, sur la gouvernance, je crois, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, je n'y reviendrai pas, c'est l'organisation meilleure des conseils d'administration autour de comités de spécialistes qui permettent d'approfondir certaines questions. Bon, je crois que ce que le grand public a peut-être parfois oublié, c'est que même en termes d'information financière, on a changé de siècle en très peu de temps. Nous étions, si vous voulez, à la fin des années 90, dans une documentation, on va dire, je le schématise, très comptable, très technique, mais qui était finalement des normes comptables qui étaient commentées avec l'aide des commissaires aux comptes. Et on est passé maintenant sur une information comptable qui est moins juridique et qui est devenue plus économique. On a beaucoup parlé ces jours derniers des IFRS. Bon, et on a parlé de ça pour dire, effectivement, ça obligeait les banques à essayer de valoriser leurs actifs à la valeur de marché, à la juste valeur. Bon, pareil, vous vous souvenez que très longtemps, les normes comptables étaient des normes formelles. Or, actuellement, on passe dans l'idée que la substance doit l'emporter sur la forme. Autrement dit, le fond doit l'emporter sur la forme. Donc, il y a eu une évolution des normes comptables considérable. Et il y a aussi, si vous voulez, un développement, on va dire, dans les 5 dernières années, absolument exceptionnel et assez extraordinaire, de toute l'information extra-comptable, j'allais presque dire littéraire. Car les entreprises...
Information qui est certainement beaucoup plus accessible aux administrateurs, enfin en tout cas pour les plus modestes d'entre eux.
C'est la difficulté, si vous voulez, car il y a eu, on va dire, une quantité d'informations qui a été demandée par le marché, qui a été repris par les différentes réglementations.
Trop d'informations tue l'information.
Exactement ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'on est passé d'une information parfois trop généraliste et trop optimiste, et sur lequel, finalement, on résumait trop, à de véritables encyclopédies presque juridiques sur l'entreprise, qui probablement est devenue très difficile à lire pour le grand public.
D'accord. Alors, autre sujet, là encore je fais le lien avec ce que je disais dans l'introduction, la communication de crise. Alors, vous y faites allusion, et vous avez même un développement spécifique sur ce sujet. Quels sont, à travers donc, votre expérience, les aspects pratiques et les recommandations que vous pouvez faire, je dirais, à l'usage tout un chacun, à commencer par les administrateurs, bien sûr, des sociétés les plus importantes, mais aussi de celles et ceux qui peuvent être, dans des niveaux plus modestes, confrontés à une communication de crise. D'abord, c'est quoi une communication de crise ?
Alors, effectivement, si vous voulez, on pourrait dire, en termes de communication, que c'est l'information permanente qui est sollicité, si vous voulez, par l'importance d'un événement vécu dans l'entreprise qui serait susceptible d'avoir un effet sur les cours de bourse. Donc, dès que vous avez un fait, une information qui est suffisamment importante et qui serait susceptible de peser, si vous voulez, sur les cours des instruments concernés, vous devez de donner cette information à tous de façon égale. C'est-à-dire vous devez faire un communiqué de presse où vous débrouillez pour que cette information passe totalement sur le marché. Et ceci dès que possible. Alors le dès que possible... Effectivement, on est
pour les juristes, ça doit être un peu compliqué.
Alors, vous avez totalement raison, parce qu'on est pris, si vous voulez, dans un sandwich très difficile à gérer, entre le devoir de parler, et de parler dès que possible, et de publier immédiatement, sans attendre. Et puis, parfois, lorsque vous êtes dans une négociation confidentielle, que vous êtes en train de préparer une offre publique, que vous êtes en train de préparer des événements importants, si vous communiquez pendant la préparation, vous risquez à ce moment-là de faire une information insuffisante, qui n'est pas suffisamment précise et qui est de nature à induire en erreur les actionnaires.
Donc, de manquer
donc,
à
trop
votre
tôt, c'est trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard.
D'accord.
Donc, toute la difficulté pour le dirigeant, ça va être le tempo de cette communication.
D'accord. Alors, vous dites en page 21, la complexité actuelle de la communication financière amène les émetteurs à faire appel à des professionnels externes ou internes variés. Alors, ce passage obligé sécurise les responsables et exonère un peu de la responsabilité ou c'est une autre complexité à gérer, le fait d'avoir recours à des tiers en quelque sorte.
On peut peut-être dire, si vous voulez, que ça montre que le sujet est devenu extrêmement complexe. Donc, ce qui veut dire qu'à l'intérieur des grandes entreprises cotées, il va y avoir de plus en plus affaire à des spécialistes, des spécialistes qui vont parler avec les analystes, des spécialistes qui vont parler avec les avocats d'affaires, qui vont parler avec les agences de notation, etc. Et là, vous avez totalement raison. À partir du moment où dans une entreprise, vous avez 3 ou 4 spécialistes, la difficulté, ça va être de coordonner et de faire en sorte, si vous voulez, que les messages qui s'adressent à des publics différents soient cohérents entre eux. Parce qu'effectivement, lorsqu'on s'adresse à des investisseurs professionnels, on ne s'adresse pas de la même façon qu'à la veuve de Carpentras. Mais si on veut, si vous voulez, communiquer de façon claire et précise, il faut quand même que les messages soient compris par tous et soient des messages, on va dire, qui soient vrais pour tout le monde et tous les publics. Et c'est
alors,
toute la difficulté.
Oui, je vois très bien. Donc, quels sont ces nouveaux risques juridiques? Vous dites qu'à partir de cette évolution, ce renforcement, cette nécessité donc, de communication financière et l'évolution de la gouvernance, le poids aussi et la pression, l'épreuve de l'opinion, il y a donc de nouveaux risques juridiques. Alors ça, c'est votre domaine, beaucoup plus spécifiquement. Les grandes lignes, c'est quoi, les nouveaux risques juridiques?
Alors, si vous voulez, je n'y reviens pas, on a parlé que la quantité d'informations données était considérable.
Bon,
c'est bien une encyclopédie. Encore faut-il vérifier que ce qu'il y a dans l'encyclopédie est correct. L'information permanente, vous m'avez posé la question sur les crises, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous devez communiquer de façon spontanée, de façon non préparée, il va falloir que ce que vous disiez, si vous voulez, au marché soit correct au moment où vous le dites. Alors, tout le problème du risque juridique de l'information permanente, c'est justement la gestion de l'imprévisible, c'est-à-dire c'est la gestion de la crise. Vous allez être pris en tenaille, je l'ai déjà dit, entre le devoir de parler et le devoir de se taire, mais vous n'avez pas forcément toujours le recul et l'objectivité souhaitable. Or, la difficulté que je vois, si vous voulez, c'est que lorsque vous êtes sur le terrain de façon pragmatique et empirique, vous devez communiquer en fonction des événements que vous contrôlez au moment où vous les contrôlez. Lorsque tout ça sera ensuite interprété par le public, il peut avoir compris ou pas compris, il fera rectifier. Et ensuite, quand ça sera interprété, on va dire, par les censeurs, c'est-à-dire les juges ou la commission des sanctions de l'AMF, quelques années après, les juges ou les censeurs connaîtront la fin de l'histoire et ça leur sera peut-être plus facile,
bien sûr,
si
de voir
voulez,
a posteriori,
de voir de façon rétroactive ce qui s'est passé à la lumière de l'épilogue.
Oui, c'est ce que dit dans sa préface Alain Viandier, qui est professeur émérite de l'université René Descartes Paris 5. On l'a bien vu à l'automne 2007 à propos de la crise dite des subprimes, où telle institution était montrée du doigt, ce qui déclenchait une forte réaction du marché. L'information est toxique lorsqu'elle n'est pas maîtrisée.
C'est toute la difficulté, c'est la gestion du temps.
Alors, vous êtes des praticiens, donc vous aimez les choses pragmatiques. Et donc, j'ai trouvé très intéressant Et en fin de chapitre, votre vade-mecum en matière de communication financière à l'attention des administrateurs. Parce que là, il est accessible, pas simplement aux juristes et pas simplement aux praticiens de très haut niveau. Et on va dire que c'est en français littéraire. Et donc, vous dégagez un certain nombre de recommandations. La première recommandation, qui me paraît être une recommandation de bon sens et qu'on ne rappelle pas suffisamment aux administrateurs par rapport à leurs responsabilités, c'est qu'ils se doivent se tenir formés et informés, mais ils doivent aussi se former.
Tout à fait.
Quelles sont les recommandations que vous donnez dans ce domaine ? Se former, ça veut dire quoi pour un administrateur ? C'est lire chez lui ou c'est participer ?
C'est, si vous voulez, de toute façon, c'est avoir, si vous voulez, en début de mandat, probablement une journée de formation sur les pratiques en matière de communication financière de la société dans laquelle ils vont être administrateurs, et puis surtout, une journée de formation sur les nouvelles réglementations. Parce que ce que je voulais dire, si vous voulez, c'est qu'en 10 ans, il y a eu une révolution extraordinaire dans ce domaine-là. Bon, donc quelqu'un, si vous voulez, qui est senior et qui a eu une grande pratique dans des conseils d'administration dans les années 90, peut savoir ou croit savoir. Et en fait, on est dans un monde qui a totalement changé. C'est toute la difficulté de l'exercice. Donc, si vous voulez, il ne faut pas hésiter à ce moment-là à se former pour s'adapter au monde qui a totalement changé.
Se former et s'informer. Donc obtenir
et s'informer.
Et s'informer, d'accord. Écoutez aussi, vous dites, ce sont toujours des recommandations de très bon sens. Donc assister à une réunion d'analystes et des conférences, inviter par une fois par an un analyste ou un investisseur à faire une présentation au conseil, procéder à intervalles réguliers à une étude indépendante sur la perception de l'entreprise par ses grands actionnaires. Alors une étude indépendante, c'est la notion... Ça rejoint la notion des administrateurs indépendants ou c'est...
Non, c'est autre chose. C'est ce qu'on a constaté, si vous voulez, dans notre étude préliminaire. Oui. On a constaté quoi ? Que les administrateurs avaient tendance à faire totalement confiance à l'information qui leur était transmise par le management et via le management. Et là, ce qu'on est en train de dire, certes, le management fait probablement son travail correctement d'information des administrateurs, mais ça nous paraît plus moderne et plus logique de voir tout d'un coup les administrateurs s'inquiéter de savoir ce que les actionnaires comprennent en définitive des messages qui leur sont passés, rencontrent éventuellement une fois par an un analyste ou un groupe d'analystes, et sachent, si vous voulez, en direct et sans que ça soit traduit et décrypté par le management, comment le marché comprend la communication financière d'une entreprise.
Vous ajoutez un point auquel nos administrateurs qui nous écoutent seront extrêmement sensibles, c'est, vous dites, protéger le patrimoine personnel des administrateurs. On va y revenir dans quelques instants, mais ça rejoint un point que nous n'avons pas abordé tout à l'heure, qui concerne l'assurance spécifique des risques juridiques. Est-ce que vous pouvez en dire un mot sur ce plan ? Est-ce que c'est accessible facilement ? Est-ce que c'est coûteux ? Est-ce que c'est pris en charge par la société directement, etc.
Si vous voulez bien, avant, si vous voulez, de passer à l'assurance, parce que pour moi, l'assurance, c'est l'échec. Ça sera...
Oui, c'est la prévention.
Et c'est la prévention qui m'intéresse le plus, si vous voulez.
D'accord.
Et dans la prévention, ce qu'on cherche à faire, si vous voulez, c'est faire en sorte que les conseils d'administration jouent de plus en plus ce rôle de contrôle de la communication financière. C'est évidemment pas aux administrateurs de faire la communication financière, mais c'est quand même aux administrateurs de s'occuper, si vous voulez, de la stratégie de la communication financière et de s'inquiéter de savoir quels sont les messages qui sont compris par le public et par les investisseurs et par les actionnaires et comment ça remonte.
Oui, ça, on voit tout à fait ce que vous voulez dire, parce qu'on a eu dans l'actualité récente un certain nombre de communications, notamment par des grands groupes financiers qui pouvaient laisser surprendre et qui étaient généralement contredits quelques jours après. C'est évident que les administrateurs avaient un rôle à jouer pour s'assurer de la cohérence de cette information.
C'est ça, c'est un rôle de cohérence, c'est un rôle, si vous voulez, probablement de fixer un encadrement aussi. On l'a vu, par exemple, sur les marchés financiers. Bon, effectivement, on pourrait s'interroger sur le point de savoir si les conseils d'administration n'auraient pas pu fixer, si vous voulez, des cadres, des limites, et des processus et des standards. Bon, et ce que nous recommandons, si vous voulez, c'est de faire en sorte, pour reprendre le mot, si vous voulez, que les tribunaux emploient, que les administrateurs fassent vigilance, et dans ces domaines-là aussi, et montrent qu'ils ont mis tous leurs moyens disponibles à disposition pour faire vigilance. C'est évidemment pas à eux de faire la communication. C'est sûrement pas à eux non plus un jour qu'on pourra reprocher un défaut de résultat, parce que c'est pas leur travail, mais c'est à eux de pouvoir montrer qu'ils ont été vigilants, qu'ils n'ont pas fait preuve de carence.
À la lumière de la crise financière mondiale, est-ce que vous pensez que les conséquences de cette crise sont de nature à faire émerger une gouvernance un peu plus coordonnée, pour ne pas dire une seule gouvernance à l'échelon mondial, et une communication financière qui responsabilise de façon égalitaire ou semblable l'ensemble des émetteurs, en quelque sorte?
Alors, tout le paradoxe, c'est que je pense qu'on y est déjà, si vous voulez.
Oui.
C'est pour ça qu'on est passé en France en une dizaine d'années.
On a rejoint le
d'un droit
le
dur, classique, qui était le droit des sociétés, si vous voulez, la loi de 66. Un droit qui est probablement plus souple, plus pragmatique, plus économique, mais qui est le droit du marché mondial, hein, qui est un droit, si vous voulez, qui est pratiquement le même par tous, avec des variantes d'appellation. Je prends par exemple les Anglais ou les Américains vont parler de devoir fiduciaire. Bon, quand je parle de vigilance, on pourrait presque dire que c'est la même chose.
D'accord, d'accord. Ce que vous dites, c'est qu'on est déjà très proches les uns des autres. Et vous ne pensez pas que la crise récente est de nature à faire des pas supplémentaires ou même peut-être l'inverse? Parce qu'on disait tout à l'heure qu'il y avait aussi des risques de toxicité de l'information excessive.
Je pense, si vous voulez, sans revenir si vous voulez, sur la qualité de cet ouvrage, c'est qu'il y avait eu des progrès formidables de gouvernance. Il y a eu des progrès extrêmement sensibles de la communication financière et le problème, c'était le lien entre les deux. Or, je pense que la crise actuelle est peut-être de nature à accélérer le lien de la gouvernance de la communication financière et faire en sorte, si vous voulez, que la communication financière soit pas seulement cadrée par une réglementation extérieure qui interviendra toujours trop tard ou qui interviendra sur des points, on va dire, trop émotionnels pour être efficace, mais c'est au rôle des conseils d'administration de contrôler ce que le management peut dire parfois de façon trop optimiste.
Eh bien écoutez, c'est peut-être sur ce dernier mot d'optimisme qu'on va mettre fin à notre entretien qui était extrêmement agréable et un entretien avec un grand professionnel qui représentait donc ce trio d'auteurs Yves Brissy, Didier Guigou, Alain Moureau qui ont donc fait paraître chez Erol avec la complicité de l'Institut français des administrateurs Gouvernance et communication financière, un ouvrage de 203 pages, 26 euros. Merci encore. Je rappelle que cet ouvrage est utile à l'ensemble des conseils d'administration sur les situations de crise, comme dans la préparation des assemblées générales, des conseils de bon sens alliés à une pratique avérée qui autorise l'écriture.
Merci, monsieur Jean-Louis Chambon.
Merci à vous, maître.